Vermifuge des Mongex, les papiers peints des Calcos et les éditions du Bélial présentent La Bibliothèque Orbitale, épisode 6. Résumé de l'épisode précédent. La situation est grave et même désespérée. Pitou, l'intrépide gladiateur cosmique, ne sait plus très bien quand il est. À bord de son vaisseau temporel, le tamanoir caractériel, il voyage vers le passé. Mais tandis que les siècles défilent à l'horizon, Pitou se pose de plus en plus de questions. Voir Bonaparte traverser le pont d'Arcole à dos d'hippopotame l'avait fait tiquer. Assister à proximité de Varennes à la fuite de Louis XVI à bord d'une Fiat Punto lui avait mis la puce à l'oreille. Et visionner une émission culinaire au cours de laquelle Henri IV révélait sa célèbre recette du banana split au pot lui avait semblé suspect. Mais à présent qu'il se trouve face à une Jeanne d'Arc méconnaissable en vendeuse de chouchous sur une plage privée de Saint-Raphaël, Pitou en est certain, quelqu'un est en train de jouer au con avec l'histoire. Lorsque soudain... Pendant ce temps, à bord d'une station spatiale russe abandonnée, le narrateur, imbibé jusqu'au follicule pileux de Sidi Ibrahim Tiedas, tente une titubante mais sincère déclaration d'amour à l'auteur de Rêves de gloire. Il est là. Après toutes ces années d'attente et d'angoisse, après ces nuits interminables à chercher un sommeil qui nous échappera pourtant jusqu'au lever du jour, après ces journées maussades passées à l'ombre d'un vieux tronc mort à feuilleter des bouquins rédigés dans un français à ce point approximatif que je me demande si ça serait pas moi que je les aurais écrits, après le manque et le désespoir, le vide et l'absence, il est enfin arrivé. Non, je ne parle pas du Beaujolais nouveau, vu qu'on est en mai en douille aquafile. Je ne parle pas non plus d'un quelconque messie venu nous extirper de ce cloaque sordide où nous clapotons sinistrement à chaque instant de notre vie, sauf les jours où il y a de la crème brûlée en dessert à la cantine. Je ne parle même pas du retour du soupul en lycra, accessoire vestimentaire tombé en désuétude à peu près en même temps que Rondo Veneziano, Alain Barrière et VGE, mais dont je tiens de source sûre qu'il va effectuer un retour fracassant l'hiver prochain. Je ne sais plus si je l'ai lu dans Cosmo ou dans Paris Turf. Mais bon, tout ça, on s'en fout puisqu'il est là. Dodu et replet, éminemment désirable sous sa couverture bariolée signée Gilles Francescano, épais comme un triple burger dindon cheese kebab avec supplément feta. Après nous avoir fait saliver d'envie depuis un bon bout de temps, Roland C. Wagner est venu à bout de son uchronie algérienne, projet pharaonique qu'il a tenu loin des tables des libraires pendant presque 5 ans. Mais voilà, il est là. Rêve de gloire. Soit 50 ans d'histoire de l'Algérie telle qu'elle aurait pu être si De Gaulle avait été assassiné un matin d'octobre 1960, si Charles, Salan, Jouot et Zeller avaient fait une belote plutôt que de putcher devant tout le monde, et si la renommée d'Evian s'appuyait uniquement sur cette sinistre eau plate donnant un méchant goût de bicarbonate aux plus anisés des pastis. En conséquence de quoi, l'Algérie a bien acquis son indépendance, mais la France y a conservé 3 enclaves, dont Alger. C'est là que l'essentiel de l'action de Rêve de gloire va se dérouler. Dans un présent imprécis, quelque part entre il n'y a pas longtemps et dans pas trop tard, le narrateur, collectionneur de disques spécialisés dans le rock psychédélique français et le gymnase des années 60, lisez le bouquin, vous comprendrez de quoi je parle, découvre l'existence d'un groupe dont il ignore tout, les Glorieux Félagas. Impossible d'obtenir beaucoup d'enseignements sur eux, encore moins de mettre la main sur un exemplaire de leur unique 45 tours. Ce qui n'est peut-être pas un mal, les rares personnes ayant tenu le disque entre leurs mains ayant une fâcheuse tendance à mourir dans des circonstances étranges. Cette chasse au Graal dans laquelle se lance le narrateur va constituer la colonne vertébrale du roman. Quant à sa chair, elle provient de la multitude de témoignages, tous anonymes, à travers lesquels va nous être révélé petit à petit ce demi-siècle d'histoire qu'ont traversé l'Algérie et ses habitants. Et le procédé fonctionne à merveille. Chacune de ces voix anonymes se distingue, chacune apporte sa pierre à l'édifice, et Roland Wagner donne la parole à tous. Français et Algériens, jeunes et vieux, hippies et fachos, militaires et déserteurs. C'est cette polyphonie qui donne toute sa richesse au roman et donne vie à cette uchronie, dans toute sa complexité. Roland Wagner a réalisé un remarquable travail d'historien pour concevoir son univers, ne se contentant pas de traiter des relations franco-algériennes, mais situant son action dans un contexte plus vaste, notamment dans le cadre d'une guerre froide qui a suivi une évolution assez différente de celle que nous avons connue. Wagner ne se lance jamais dans d'indigestes discours didactiques, mais par petites touches laisse entreapercevoir toute l'ampleur de l'univers qu'il a imaginé. Et puis, ce qui intéresse l'auteur par-dessus tout, ce sont les phénomènes culturels qui vont naître et se développer à partir des divergences de ce monde, avant d'influer à leur tour sur le cours de l'histoire. C'est l'apparition d'une contre-culture s'appuyant sur la naissance d'une scène rock française, puis algéroise, ainsi que sur la découverte d'une nouvelle drogue importée par un certain Timothy Leary, la fameuse gloire donc. Évidemment, lorsqu'il aborde ces sujets, Roland Wagner est comme un poisson dans l'eau, et il multiplie clins d'œil et hommages. Mais là encore, tout est très réfléchi. Ainsi, pour ne citer que deux des exemples les plus frappants, les destins que connaissent Johnny Hallyday ou les Beatles dans cet univers obéissent à une logique et ont des conséquences palpables sur l'évolution de la musique de ces années 60. On va éviter de qualifier Rêve de gloire d'utopie. L'anomalie historique que constitue cet Alger dans un contexte tendu et reposant sur une unité précaire apparaît plutôt comme une parenthèse fragile qui, jusqu'aux ultimes pages du roman, semble pouvoir se refermer à tout moment. Il n'empêche que le souffle de liberté qui parcourt en permanence les rues de la ville et les pages de ce roman en fait une des lectures les plus enthousiasmantes qu'on puisse imaginer, au point que, les 700 pages de Rêves de gloire avalées, tu te retrouves comme un con à trouver ça trop court. Donc, auditeur, auditeuse, mon camarade, ma sœur, toi qui m'écoutes à peine d'une oreille envasée de ces rumens où la main du coton-tige n'a jamais mis le pied, je te jure que si tu ne files pas de suite te procurer Rêve de gloire, édition de l'Atalante, 24,50€, je te fracasse la gueule.